Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voici, nous en sommes au chapitre 4 de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris il y a une vingtaine d'années et qui est toujours disponible en librairie. Donc, ce chapitre 4 concerne le langage symbolique. Et j'ai mis en épigraphe à ce chapitre 4 deux phrases, une phrase d'Alain qui dit « Ce qui importe, ce n'est pas de savoir si c'est vrai, mais comment c'est vrai ». Et la deuxième phrase est de Georges-Louis Borges qui nous dit « La vérité historique n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que nous pensons qui s'est passé ». Voyez. Donc, qu'avons-nous vu dans les émissions précédentes? Eh bien, nous avons vu que les constructions symboliques instauraient un ordre qui est proprement l'espace de la culture, face au monde des faits et contre eux, par imposition à l'esprit de perspectives fictives ou imaginaires. Et on a vu aussi que le positivisme ramenait l'esprit à l'ère du fait brut, tel que la science matérialiste le conçoit. Alors cette barbarie, avons-nous dit, est une barbarie d'une nouvelle espèce, ce qu'on pourrait appeler une barbarie savante, et elle peut être vue comme une véritable catastrophe anthropologique, puisque le langage de l'esprit se trouve réduit désormais à celui de la rationalité. Alors je pense qu'il faudrait réhabiliter un nouveau langage qui est oublié ou qui a été perdu pour remettre l'homme en contact avec ses constructions symboliques. Et cette restauration ou cette réhabilitation est peut-être aujourd'hui la tâche essentielle lorsqu'on approche le monde de la culture. Regardons par exemple comment fonctionne l'esprit positiviste. Eh bien, le mode de pensée à l'œuvre dans ce positivisme, bien sûr, et d'abord il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date même pas du 19e siècle avec Auguste Comte. Déjà dans la Grèce antique, le philosophe Évémère prétendait que les dieux n'étaient que des hommes de chair, qui avaient vécu comme les autres hommes, mais qui avaient été entourés d'une certaine aura, A-U-R-E-A, ou d'un certain charisme, et qui ont été, ces hommes-là, ultérieurement, c'est-à-dire après leur mort, divinisés, par apothéose, en quelque sorte. Et on nomme évémérisme cette façon de voir. La même orientation se trouve aussi chez Épicure et chez Lucrèce. Alors l'expression « n'était que », c'est une expression réductrice, et on voit la direction essentielle de cet esprit-là contre lequel je vais me battre, entre guillemets, dans cette émission, dans cette série d'émissions. Cet esprit est réductionniste ou matérialiste. En effet, le propre du matérialisme, c'est d'expliquer le supérieur par l'inférieur. C'est donc, pourrait-on dire, une pensée du soupçon. Et les plus belles constructions de l'activité symbolique risquent de ne pas y résister. Derrière le bel édifice opéré par les constructions symboliques, que l'on va nier maintenant de façon ricanante, on va chercher le fait positif qui lui a donné naissance. Alors on va se dire « ce n'était donc que cela ». Alors je prends quelques exemples concrets. On va convoquer des petits faits pour rendre compte des superstitions. Par exemple, on croyait naguère au feu follet. Eh bien maintenant, la chimie nous dira que ces fameux feux follets sont des émanations chimiques ou des gaz en autocombustion dans les cimetières, vous voyez. Les apparitions, les fantômes, les revenants auxquels on croyait naguère vont devenir des hallucinations ou des rêves éveillés. On a cela chez Lucrèce, par exemple, déjà. Prenons par exemple le monstre du Loch Ness. Eh bien, j'ai vu dans la presse qu'il pouvait renvoyer à un phénomène purement physique. Il s'agissait des troncs d'arbres qui étaient immergés depuis longtemps et qui remontaient soudainement à la surface du lac après un bouillonnement, fruit d'une émission de gaz, vous voyez. Donc on va déconstruire cette croyance hein, en montrant le fait réel positif qui la génère, qui lui donne naissance. Prenons le cas du buisson ardent, par exemple, qui apparaît à Moïse dans la Bible juive, dans la Bible chrétienne aussi. Hein. Eh bien, on va dire que c'est l'air qui tremble sur le sol pendant l'été, puisqu'on a l'impression, justement, que l'air s'enflamme, si vous voulez, du fait de la température élevée. Autre exemple, alors j'espère ne choquer personne par cet exemple, certains libres penseurs, certains esprits forts ont expliqué l'apparition de la Vierge à Bernadette, à Lourdes. Ils ont expliqué cette apparition par les rendez-vous galants de la pharmacienne de Lourdes qui aurait été surprise avec son amant dans la grotte par la naïve paysanne, vous voyez, hein. Donc le miracle de l'apparition devient une commotion psychologique, vous voyez. Alors on ne s'est pas demandé pourquoi les hommes ont nourri cet imaginaire. On ne s'est pas posé la question de savoir si son exploration ne nous apprendrait pas sur les hommes eux-mêmes quelque chose. Hein. On a eu une attitude au contraire de soupçon inquisitorial et non pas une attitude de connivence et de sympathie. Je ne pense pas que ça soit la bonne attitude. Vous voyez ce que dit André Breton, par exemple. Ces êtres, hein, faut-il les convaincre qu'ils procèdent du mirage ou leur donner l'occasion de se découvrir? Vous voyez? Bon. D'ailleurs, l'opposition entre la vision symbolique et la vision littérale peut nous permettre justement, si on y réfléchit, d'inverser les perspectives. Rien ne dit d'ailleurs que dans l'histoire elle-même des hommes, la vision littérale des choses ait précédé leur vision symbolique. Voyez par exemple le dessin des enfants, qui est d'abord symbolique, c'est-à-dire pensé, hein, intellectualisé, avant d'être littéral ou réaliste, c'est-à-dire observé. Le mythe ou le langage symbolique ont pu précéder de la même façon la littéralisation et l'historicisation ultérieure des choses. Vous voyez, hein, lorsque l'enfant va à l'école, on lui apprend à dessiner en perspective, c'est-à-dire à dessiner ce qu'il voit, hein, mais initialement, il dessinait non pas ce qu'il voyait par les yeux de son corps, mais ce qui était important pour lui, ce qui répondait à un sentiment intérieur, ou bien à ce que son esprit, justement, pensait. Vous voyez? Alors peut-être que la vision littérale a été introduite par les églises ou par les institutions pour subjuguer les fidèles au moyen de l'idolâtrie des faits dits réels. Et le langage symbolique, de ce point de vue, est plus pur, et le langage littéral, il est plus magique ou plus superstitieux. Le langage symbolique, donc, peut durer davantage, car le second, le langage littéral, s'expose très vite à la critique de la raison. Nous avons, lors d'une émission précédente, analysé le phénomène de l'Eucharistie. Hein. Eh bien, la présence du Christ sur l'autel a été pendant 1000 ans considérée comme symbolique ou problématique. On ne savait pas trop ce qu'il fallait en penser. Augustin disait « Le Christ est présent sous perquem dam modum », sous une certaine manière, mais on ne le savait pas. Hein. On ne savait pas vraiment décider de quelle façon il y avait cette présence. Et après, contre justement la vision symbolique des protestants, le Concile de Trente a affirmé la fameuse présence réelle, c'est-à-dire qu'une fois dites les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il y a véritablement la transformation, la transsubstantiation. Alors là, on a substitué à une vision symbolique, potentiellement symbolique ou symbolique dans le cas des réformés, hein, eh bien on a substitué à cette vision une vision littéral à laquelle les fidèles ont été sommés de croire. Donc, vous voyez, je crois que le symbolique est quelque chose de primitif chez les hommes, et le littéral n'est convoqué qu'après pour alimenter la crédulité. Par exemple, pour le christianisme, le message du Christ, la bonne nouvelle du Christ, comme on dit en latin, Evangelium Christi, qui était perceptible dans certaines paroles, petites paroles qu'on appelle des logia à partir d'un mot grec, ces paroles étant rapportées dans les textes canoniques, eh bien, le message du Christ, je dirais, a précédé la biographie factuelle qu'on en a rapportée. Et ces paroles, ces logia, ont été fondues dans un contexte narratif, un storytelling qui est ultérieur. Et ainsi, l'évangile au sujet du Christ, Evangelium de Christo, a remplacé l'Evangelium Christi, la bonne nouvelle du Christ lui-même. Et du message initial du Christ, il pouvait y avoir, du fait de sa brièveté même, une version seulement symbolique. Voyez par exemple ce que dit l'évangile de Philippe. Ceux qui disent que le Christ est mort puis est ressuscité se trompent. En vérité, il est d'abord ressuscité et puis il est mort. C'est-à-dire, il s'est d'abord redressé, comprenez, spirituellement. Il s'est relevé spirituellement et ensuite il est mort comme tout le monde. Donc, c'est vrai que cette façon de croire, de penser les choses est peut-être opposée à la façon ordinaire de penser, mais peut-être que le message même de Jésus autorisait initialement des interprétations symboliques que le storytelling ultérieur, la narration, a désormais invalidé. Et on a dû alors croire littéralement à ce qui était rapporté. Donc je répète la phrase de Borges que j'ai citée en commençant, la vérité historique n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que nous pensons qui s'est passé. Donc vous voyez là, la phrase de Borges relativise la croyance littérale que nous devons avoir et que les églises nous enseignent par le biais du catéchisme. Voilà, alors, pour traiter la question du rapport entre le symbole et la réalité positive, je vais m'appuyer sur certains passages de la Bible. Prenons par exemple l'évangile de Matthieu. Il débute par une page entière qui constitue la généalogie de Jésus. On lit « Abraham engendra Isaac, lequel engendra Jacob, lequel à son tour engendra, etc. etc. » Et à la fin, on arrive à Joseph, mais là, la chaîne va se rompre, car il est notoire que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Alors, les voltairiens ou les esprits forts, dont j'ai parlé tout à l'heure, diraient que Joseph fut le premier mari trompé de l'histoire, vous voyez. Et certains esprits irrévérencieux ou perfides ont même dit que Jésus fut un bâtard, un enfant naturel de Marie et d'un centurion romain nommé Panthère ou Pantera. Ce sont des bruits qui ont été répandus à l'origine par les Juifs contre la nouvelle religion naissante, si vous voulez, hein. Alors pourquoi donc le texte de Matthieu prend-il la peine de mentionner cette longue page de généalogie qui est absolument inutile si on y réfléchit un peu? Ce n'est pas logique, hein. Il n'est pas logique non plus qu'une femme puisse engendrer sans avoir été fécondée par un homme. Positivement, c'est impossible. La parthénogenèse, qui est un vieux fantasme, est impossible. Et le recours au Saint-Esprit va faire sourire les esprits forts. Voici ce que dit Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici ce qu'il en fut de l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération de l'Esprit-Saint avant qu'ils eussent habité ensemble, vous voyez. Alors, cependant, cette histoire impossible, si on sait l'interpréter comme il convient, c'est-à-dire symboliquement, est extrêmement profonde. Alors, nous allons nous y risquer. En termes psychologiques, cette histoire signifie que tout homme dans sa vie peut se trouver dans la position de Joseph. D'abord, lorsque sa femme lui annonce, ou sa compagne, hein, lui annonce qu'elle attend un enfant et que cet enfant est de lui, eh bien, il est obligé de la croire sur parole, de lui faire confiance. Il y a un acte de confiance, hein. L'homme même n'a aucun moyen lui-même d'en être sûr. Alors je laisse ici les tests génétiques où ils sont, et d'ailleurs ils nous ramèneraient à la barbarie, soit scientifique, soit technicienne. Hein. Ensuite, en second lieu, cette histoire veut nous dire que le père n'est pas le géniteur, le père biologique, mais bien celui qui adopte l'enfant, qui le reconnaît pour sien, qui décide de s'en occuper et de l'élever, hein. Comme dit la maxime latine, hein, is pater est quem nuptiae demonstrant, c'est-à-dire celui-là est le père que montre le mariage. Bon, parce que Joseph quand même décide de garder Marie auprès de lui et d'élever cet enfant, hein. Voilà, donc c'est lui le vrai père, le père non pas selon la nature, mais le père selon la culture. Il va adopter l'enfant, voyez. Je pense à la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny, César, et spécialement la seconde pièce qui s'appelle Fanny. Hein. Dans Fanny, de Marcel Pagnol, eh bien, Marius est parti courir le monde et il a abandonné Fanny qui était enceinte de lui, vous voyez. Alors Fanny, pour éviter justement que cet enfant soit un bâtard sans nom, eh bien décide de d'épouser Panis, hein, et Panis va relever cet enfant aux yeux de la communauté en lui donnant son nom. Alors le problème, c'est que Marius, après avoir couru le monde, il revient et il veut reprendre son enfant sous prétexte qu'il lui a donné la vie du point de vue biologique. Et alors, lorsque Marius dit cela à César, je lui ai donné la vie, César répond que les chiens aussi donnent la vie. Et qu'au fond, lui, Marius, il n'a pas à proprement parler donné la vie à cet enfant. C'est lui qui la lui a prise, hein. N'importe qui peut donner la vie en ce sens. Il suffit de quelques secondes et parfois d'inconscience pour donner la vie en ce sens. Mais tout le monde ne peut pas donner des années de sa vie à un enfant pour l'élever. En effet, un éclair biologique suffit à créer la vie, mais des jours entiers, souvent des jours de sacrifice, la font grandir. Alors vous voyez ici à nouveau l'opposition de la nature et de la culture. Le père selon la culture n'est pas le père selon la nature. Et quiconque n'adopte pas son enfant n'est pas le vrai père. À un moment, Fanny évoque son accouchement et elle dit que auprès de lui se trouvait Panis et Fanny enfonçait ses doigts, ses ongles, dans la main de Panis, et Panis porte encore les traces justement de ses blessures entre guillemets. Donc, et c'est Panis qui a dans la paume de sa main la trace des ongles de Fanny lorsqu'elle a accouché et non pas Marius. Et c'est Panis qui était là et non pas Marius. Et Panis a donné l'enfant son nom, il éduque l'enfant. Aussi, lorsque Marius lui demande de façon impertinente si le père est celui qui donne la vie ou celui qui paie les biberons, César répond très profondément, Marius, le père, c'est celui qui aime, vous voyez. Donc, pourtant, César devrait être partial vis-à-vis de son fils, Marius. Eh bien non, il lui fait la leçon en lui disant qu'il n'a rien à faire là, qu'il doit s'éloigner. Le père, c'est celui qui aime. Courir le monde comme l'a fait Marius, c'est peut-être connaître l'aventure. Mais élever et éduquer un enfant, ce n'est pas un destin moindre. Cette tâche a sa grandeur, elle a son héroïsme. Les pères de famille, disait Charles Péguy, sont les aventuriers du monde moderne. Il y a donc là un trésor des humbles que révèle cette histoire. Je prends l'expression « trésor des humbles » à Maurice Maeterlinck. Vous voyez, le trésor des humbles. Alors Joseph, nous dit le texte évangélique, après avoir été tenté de répudier Marie, a eu en songe la visitation d'un ange qui lui a suggéré de garder l'enfant auprès de lui et de le reconnaître pour sien, de l'adopter, de l'élever. C'est ce qu'il a fait. Je pense au tableau de Georges de la Tour, l'ange apparaissant à Saint-Joseph qui se trouve au musée de Nantes. Alors bien sûr, on peut ne pas croire aux anges. Alors si l'on est agnostique, comme personnellement je le suis, l'ange peut être une allégorie d'une voix profonde, jaillie de l'inconscient ou du subconscient, peu importe. Le rêve ici est une révélation et non pas une illusion, c'est une révélation sur un scénario de vie très important, auquel chacun peut être confronté dans sa vie, je le répète, et cette révélation est extrêmement précieuse. Donc il ne faut pas voir dans la naissance virginale de Jésus une absurdité, une impossibilité. Ou bien, si nous pensons que la chose est effectivement impossible, il faut y voir un sens supérieur au sens logique. L'élucidation, je répète, d'un scénario auquel tout homme, tout couple dans sa vie est confronté. Alors vous voyez que la culture avant tout présuppose la connaissance de ce langage oublié, des mythes, des récits et des constructions symboliques. Vous voyez, Cassirer disait « il faut vivre par le symbole ou mourir par la chair ». Vous voyez, bon. Aujourd'hui, là-dessus, nous sommes analphabètes, car nous sommes influencés par un ricanement qui vient de plusieurs siècles, et nous confondons vérité de fait et vérité psychologique. Et Alain a dit l'essentiel sur ce point dans « Les dieux », phrase que j'ai mise, je répète, en épigraphe à mon chapitre, « Il s'agit moins de savoir si c'est vrai que de savoir comment c'est vrai ». Voilà, comment, c'est-à-dire bien percevoir le sens du langage symbolique. Alors on verra, par cet exemple que je viens de citer, le danger d'irréflexion qu'il y a pour une femme à vouloir porter un enfant sans qu'un homme l'ait touché, comme certaines femmes le demandent et parfois, malheureusement, l'obtiennent encore aujourd'hui. Et on reconnaît bien là la folie ordinaire et l'attitude prométhéenne de l'homme occidental. L'homme agit ici au mépris complet de ce que dit toute la culture. Qu'est-ce qu'elle dit, la culture ? Que tout enfant a besoin d'un père qui l'adopte, hein, qui le soulève, suscipere, comme on disait à Rome autrefois, hein, pour le montrer comme étant sien, hein, qui le prend dans ses bras et l'élève, voyez, hein. Donc le vrai père est le père adoptif. À propos des tests génétiques, bon, s'ils se généralisent aujourd'hui, eh bien, on constatera l'éclatement de beaucoup de couples. En effet, il y a, je sais pas quelle est la proportion d'enfants qui ne sont pas les fils justement de celui qui s'imagine être leur père. C'est, je crois, je l'avais lu, entre 5 et 10%. Hein. Là, ça serait absolument catastrophique. Parce que, imaginez celui qui a élevé un enfant, hein, et qui apprend à la fin, grâce à des tests, hein, que cet enfant n'est pas de lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va verser, comment dire, s'il a, par exemple, versé une pension alimentaire à sa femme après un divorce, il va vouloir obtenir le remboursement de cette pension alimentaire. Où est-ce que l'on va, là? On est dans la pure barbarie, la barbarie technicienne, vous voyez, la barbarie savante dont j'ai parlé. Alors, cette idée de, comment dire, pour terminer sur ce point, je vous indique quelques pistes. La naissance virginale de Jésus vient d'une interprétation d'un passage d'Isaïe, hein, du livre d'Isaïe, où on nous dit « Voici, la Vierge enfantera, et elle aura un fils, et cet enfant sera appelé Emmanuel. » Alors, dans la Septante, qui est la traduction de l'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ de la Bible juive, vous avez le mot parthénos, c'est une traduction en grec, parthénos, qui veut dire effectivement vierge. Hein. Donc, la naissance virginale de Jésus viendrait justement de cette interprétation de la Septante, hein, qui traduit l'hébreu alma, hein, qui veut dire jeune femme nubile, par le grec parthénos, qui veut dire apparemment vierge. En effet, en hébreu, vierge se dirait pas alma, mais betula. Hein, betula. Donc, peut-être que les 70 rabbins d'Alexandrie ont fait un contresens sur la Bible juive. Les juifs ont dit que cette Septante avait altéré leur propre texte. Hein. Donc le ciel a pleuré le jour où leur Bible a été traduite en grec. Voilà ce que certains milieux juifs ont dit. Hein. Les chrétiens, bien entendu, ont dit que c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui avait inspiré les 70 rabbins, vous voyez, pour leur donner l'intention, enfin, faut qu'ils mettent parthénos, la Vierge, vous voyez. Hein. Bon, il est vrai que le texte de Matthieu dont j'ai parlé, c'est un texte qui renvoie à la Septante. Hein. En monde chrétien, la Septante fait foi. Pour les orthodoxes, par exemple, les chrétiens orthodoxes, la Septante est le seul texte qui fasse foi. Si donc parthénos signifie véritablement Vierge, à ce moment-là, il s'agirait peut-être d'un contresens bizarre fait par les 70 rabbins en question. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette réflexion sur la différence qu'il y a entre le langage symbolique et le langage positif, littéral ou rationnel. Voilà, eh bien, à bientôt, rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.